Bénissons Dieu. C'est lui qui nous accueille aujourd'hui dans son Église. Louons Dieu et remercions-le, c'est de lui que nous recevons la vie. Bienvenue à chacune et chacun. C'est une joie pour moi de vous accueillir pour vivre ce temps de culte. Ce temps de culte rendu à notre Seigneur, qui lui aussi nous accueille ce matin. Et aujourd'hui, comme chaque été, ensemble avec nos deux communautés évangéliques et protestantes. Sentez-vous aussi bien accueillis, quelle que soit votre appartenance. Bien, là, vous voyez que cet été, ça est assez particulier. Nous n'avons pas notre communauté catholique en face parce que c'était prévu de... Dans le centre, et puis pour anticiper, vu qu'on n'avait pas une date précise des architectes, ils ont décidé de faire toute leur célébration au village. Donc on sera, nous, seuls ici, et avec la porte ouverte, comme ça on peut aérer un petit peu. Voilà. Si jamais vous avez de l'eau à l'extérieur, si vous avez soif, n'hésitez pas, et puis vous levez, vous prenez un peu d'eau. Voilà, merci. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, voici le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici le temps de donner de l'espace à nos prières. Voici le temps de nous mettre à l'écoute de Dieu, de nos proches, de nous-mêmes. Que la paix de Dieu soit avec nous aujourd'hui et qu'elle nous achemine vers la joie qui est au-dessus de toute joie. Amen. Et pendant le chant, notre prochain chant, j'invite Elena, Amélie et puis Elisa à prendre les enfants, de descendre. Les enfants, vous serez accompagnés par notre trois accompagnatrices qui sont juste là. Je vous invite à descendre. Et pendant ce moment-là, nous allons chanter le chant 21-11. J'entrerai dans ses portes. Je vous invite à vous lever. Merci. J'ai oublié qu'ils ont chanté jusqu'au 1 et le 2 couplet. Ici. Et notre prière de louange, c'est dans le psaume 31, quelques versets. Du chef de cœur, psaume de David. Seigneur, J'ai fait de toi mon refuge, que je ne sois jamais déçu. Libère-moi par ta justice. Tends vers moi l'oreille. Vite, délivre-moi. Sois pour moi le rocher fortifié, le château fort qui me sauvera. Pitié, Seigneur, je suis en détresse. Le chagrin me ronge les yeux, la gorge et le ventre. Mais je compte sur toi, Seigneur. Je dis, mon Dieu, c'est toi. Qu'ils sont grands les bienfaits que tu réserves à ceux qui te craignent. Tu les accordes à tous ceux dont tu es le refuge, devant tout le monde. Tu les caches là où se cache ta face. Loin des intrigues des hommes, tu les mets à l'abri des attaques de la langue. Béni soit le Seigneur, car sa fidélité a fait pour moi un miracle dans une ville en difficulté. Et nous chantons le chant 21-14, les mains ouvertes, je vous invite à vous lever. Prions. Seigneur, nous nous découvrons devant toi, si maladroits pour te parler.
Accueille-nous et pose des mots nouveaux dans nos bouches.
Seigneur, nous nous découvrons devant toi, silencieux ou bavards.
Accueille-nous et deviens parole vivante en nous.
Seigneur, nous nous découvrons devant toi, si maladroits à t'écouter.
Accueille-nous à cause de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le chant 1303, « Quand les montagnes s'éloigneraient ». Place. C'est un grand plaisir d'inaugurer cette saison de culte d'été, un grand plaisir de présider ce culte avec toi, Naïd.
Le plaisir est partagé.
On a eu le bonheur de le préparer ensemble et voilà, je tiens à rendre témoignage de ce privilège particulier de vivre ces cultes ensemble pendant cet été et je nous souhaite une belle saison estivale. Le livre de Ruth est un petit livre de 4 chapitres, qui raconte une belle histoire, toute simple. C'est une histoire de loyauté et de fidélité. Mais derrière cette histoire toute simple se cache un récit un peu plus abrupt parfois, parce qu'il parle aussi d'exil, il parle de foi, il parle d'alliance, il parle de la providence, et il comporte aussi des thématiques d'une grande actualité, comme l'accueil de l'étranger, la diversité, la maternité, et même la maternité de substitution. L'histoire, elle est située dans nos Bibles au temps des juges. Donc, entre l'arrivée du peuple hébreu en Canaan et l'institution de la royauté. Grosso modo, 12 siècles avant Jésus-Christ. C'était un temps troublé. Il y avait de nombreux conflits entre les Israélites et les peuples voisins. Un contexte assez chaotique, violent. Et dans ce contexte, l'histoire que nous allons survoler, l'histoire de Noémie, de Ruth, de Boaz, cette histoire apparaît presque comme une respiration. Notre mini-série à nous, elle comportera 8 épisodes. À suivre au fil des 4 chapitres du livre tout au long de cet été. Ce matin, il sera question d'une crise économique majeure, d'un exil et de 3 femmes, seules, sans ressources. Il sera aussi question de foi et de souveraineté de Dieu. Ça va? Vous y êtes? La crise économique, elle est comme celle qui frappe parfois ces pays à dominante agricole. Les récoltes sont médiocres, sans doute sur plusieurs années, et c'est la crise économique. Dans notre histoire, la Bible parle d'une famine. Dans ce contexte, certaines familles décident de rester sur leur terre qui ne donne plus grand-chose dans l'attente de jours meilleurs. Peut-être qu'elles ont emmagasiné quelques réserves dans les silos. Peut-être qu'elles sont têtues. Peut-être qu'elles sont trop peureuses pour envisager un départ. Parce qu'il en faut du courage pour quitter le pays qu'on aime, pour espérer tout recommencer ailleurs. L'exil, c'est toujours coûteux. L'exil, c'est toujours incertain, dangereux, risqué. Et voilà qu'au moins une famille décide qu'il ne sert à rien de rester là sans rien faire. Il faut partir, tout quitter. Ce n'est pas en Afrique. Cela se passe au pays de la Bible, plus d'un millénaire avant Jésus-Christ. Cela se passe même assez précisément à Bethléem. Littéralement, Bethléem, la ville du pain. Et la ville du pain est sans pain. Ce qui aurait dû exister n'existe plus. La maison est vide. Les greniers sont vides. Ce qui aurait dû être n'est pas, n'est plus. Voilà le contexte du livre de Ruth, et nous allons écouter ou suivre la lecture ensemble maintenant du début de l'histoire au chapitre 1.
À l'époque où gouvernaient les juges, il y a eu une famine dans le pays. Alors, un homme de Bethléem, en Juda, partit avec sa femme et ses deux fils. Ils immigrèrent pour un temps dans le pays de Moab. L'homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie et ses deux fils Mahlon et Kilion. Ils appartenaient au clan d'Ephrata. Au cours de leur séjour à Moab, Elimelech, le mari de Noémie, mourut et elle resta seule avec ses deux fils. Ceux-ci épousaient des Moabites. L'une d'elles s'appelait Orpa, l'autre Ruth. Ils habitaient là-bas pendant 10 ans. Mahlon et Kilion moururent à leur tour. Noémie resta seule, privée de ses deux enfants et de son mari. Alors Noémie se leva, elle et ses deux belles filles, et quitta le pays de Moab pour revenir chez elle. Elle avait en effet appris que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple. Il lui avait donné des bonnes récoltes. Elle partit de l'endroit où elle se trouvait, accompagnée de ses deux belles filles, et elles allaient sur le chemin du retour vers le pays de Juda. Noémie dit à ses deux belles filles, « Allez, rentrez chez vous maintenant, chacune dans la maison de sa mère. Que le Seigneur soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Que le Seigneur permette à chacune de vous de retrouver la sécurité, celle d'une femme dans la maison de son mari. » Puis, elle les embrassa. Elles élevèrent leur voix et se mirent à pleurer abondamment. Ils lui dirent, « Non, nous t'accompagnons. Avec toi, nous retournerons auprès de ton peuple. » Noémie reprit, « Rentrez chez vous, mes filles. Pourquoi voulez-vous venir avec moi? Je ne suis plus en âge d'avoir des fils qui pourraient vous épouser. » « Rentrez chez vous, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. » Et même si je disais, il y a encore de l'espoir pour moi, cette nuit même, je serai à un homme qui me donnera des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi? Renonceriez-vous à épouser quelqu'un d'autre? Non. Non, mes filles, mais ma situation est plus amère que la vôtre, car la main de Dieu s'est abattue sur moi. Les deux belles filles élevèrent la voix et pleuraient de plus belle. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère avant de la quitter, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit à Ruth, « Regarde ta belle-sœur, est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi, prends exemple de ta belle-sœur. » Mais Ruth répondit, « N'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et c'est là que je serai enterré. Je le jure par le nom du Seigneur. Seule la mort me séparera de toi. » Quand Noémie vit que Ruth était résolue à l'accompagner, elle cessa d'insister. Et elles allaient ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée suscita de l'émotion dans toute la localité. Les femmes s'acclamaient. « C'est ce vraiment Noémie ?» Elle leur déclara, « Ne m'appelle plus Noémie, l'heureuse, mais appelez-moi Mara, l'affligée, car le Dieu souverain m'a durement affligée. Je suis partie d'ici les mains pleines et le Seigneur m'a fait revenir les mains vides. » Pourquoi m'appellerez-vous encore Noémie alors que le Seigneur s'est tourné contre moi et que le Dieu souverain a causé mon malheur? C'est ainsi que Noémie revint du pays de Moab avec Ruth, sa belle-fille moabite, et elles arrivaient à Bethléem au début de la récolte de l'orge.
Le verset 1 de notre texte situe les événements au temps du gouvernement des juges, mais visiblement pas pendant les temps les plus sombres, parce qu'à ce moment-là, les gens peuvent encore voyager sans trop de difficultés. Apparemment, Noémie et son mari Elimelech ne sont pas en train de mourir de faim. Parce qu'au verset 21, Noémie dit qu'elle est partie de chez elle le ventre plein. Elle aurait pu survivre encore, peut-être un peu, mais de l'autre côté du Jourdain, l'herbe était plus verte. Alors les parents embarquent leurs deux garçons, Malon et Kilion, et ils quittent Bethléem pour aller s'établir dans un pays étranger, un pays étranger, où la culture est différente, où les lois sont différentes, où les mœurs sont différentes, où la religion est différente, et où la langue n'est pas tout à fait pareille. Le plat pays de Moab est plus fertile que les collines de Juda. Et là, à Moab, l'espoir renaît. Mais pour un temps seulement. Elimelech meurt sur cette terre étrangère. Et Noémie se retrouve veuve, avec deux jeunes gens à s'occuper. Malone et Kilion. Ah, il faudrait qu'ils se marient, Malone et Kilion. Un mariage mixte, parce qu'il n'y a pas de jeunes filles israélites dans les parages. Si je me mets à la place de Noémie, je me dis que pour elle, ce n'était pas le choix idéal. Elle attendait autre chose de la vie. Elle nourrissait d'autres ambitions pour elle, pour les siens et pour ses fils, un mariage avec une jeune fille juive pour honorer la loi de Dieu. Et avec le mariage, une grande fête de famille et bientôt des petits-enfants qui courent autour de la table. Et d'un autre côté, je m'imagine les familles moabites qui se disent « Ah mais qu'enfin, quand même, pourquoi se marier avec des étrangers ? Il n'y a pas assez de jeunes hommes en Moab pour que nos filles aillent se marier avec des étrangers, quand même. » Mais Malone et Kilion finissent tout de même par se marier. Et la mort frappe à nouveau. Malone et Kilion meurent à leur tour. Et la Bible n'explique pas le pourquoi du comment, n'allez pas mettre des raisons là-dedans que la Bible ne nous donne pas. Des deux côtés de la frontière, la coutume dit ce qu'il faut faire pour les veuves. Le frère du défunt doit épouser la veuve. Deutéronome 25, 5 à 10. C'est très codifié. Mais là, il n'y a plus de frères. Il n'y a plus de frères. Et Noémie, elle est trop âgée pour mettre d'autres enfants au monde. Et quand bien même elle en mettrait au monde, Orpa et Ruth n'attendraient pas qu'ils soient en âge de se marier. On est dans une impasse. Et Noémie ne voit qu'une seule issue à cette impasse. Elle libérera ses deux belles-filles et elle rentrera seule à Bethléem. C'est le retour à la case départ. Quand elle est partie, elle avait le pas léger. Elle avait les siens à ses côtés. C'était une aventure en famille. Mais maintenant, elle revient seule. Le cœur aussi lourd que ses pas, avec le goût amer de l'échec, à chaque pas. Elle est même convaincue que Dieu a été contre elle, dit-elle, versets 20 et 21. Le Dieu souverain a tourné sa main contre moi. C'est son constat. Noémie, ça veut dire douce, gracieuse, charmante. Mais maintenant, elle se voit comme Mara, amère, affligée. Et les deux belles filles alors ? Eh bien, nous l'avons lu, Noémie leur offre de rentrer chez elle. Elle le leur demande même, versets 8 et 9, avec insistance. « Mes chères belles-filles, rentrez chez vous, restez avec vos mères. » Orpa décide de refaire sa vie auprès de son peuple. Et c'est un choix légitime et intelligent. Elle pleure un peu, mais elle ne pleurera pas toujours. Elle peut recommencer quelque chose. Et Ruth alors ? Eh bien, Ruth reste. Pourquoi ? Noémie insiste, regarde, regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple, ses dieux. Fais donc comme elle, retourne chez les tiens. Et c'est là qu'il nous faut bien écouter la réponse de Ruth au verset 16 et 17. Elle dit, elle reconnaît que si elle accompagne Noémie, elle va quitter son pays. Elle ne verra plus jamais ses parents. Elle ne se remariera sans doute pas. Elle vieillira sans enfant. Elle vivra dans la pauvreté d'une veuve avec sa belle-mère. Elle l'accompagnera jusque dans la vieillesse et dans la mort. Et le tout sur une terre étrangère, dans une culture étrangère, loin de chez elle, loin de tout ce qui l'a construit, loin de tout ce en quoi elle se reconnaît. C'est son choix. Elle peut penser à ses intérêts ou elle peut renoncer à elle-même. Elle peut sauver sa peau ou elle peut la perdre au profit de quelqu'un d'autre. Voilà le choix. Et Ruth n'hésite pas une seconde. Elle prend un aller simple pour Bethléem. Cette femme, c'est une héroïne. Malgré l'intensité de l'épreuve, le Dieu de Noémie reste pour elle un Dieu désirable, un Dieu qu'il fait bon connaître et suivre. Elle lui dit « Ton Dieu est mon Dieu et ton peuple sera mon peuple jusqu'à la mort et même au-delà, puisqu'elle veut même être ensevelie dans son nouveau pays. » J'ai eu le bonheur de travailler 19 ans en France, dans une banlieue un peu tendue. Là, j'ai fait la connaissance de beaucoup d'immigrés, dont plusieurs se sont convertis au Christ. Et j'ai découvert que beaucoup d'immigrés en France veulent être enterrés dans leur pays d'origine. Ils se cotisent même pour que le cercueil revienne au pays des ancêtres. Les gens du Maghreb, qui ont longtemps vécu en France, qui ont travaillé en France, qui ont cotisé en France, aiment revenir au pays pour la fin de leur vie, même si la réintégration est difficile. Et dans la Bible, le patriarche Joseph s'organise pour que les ossements de son père Jacob quittent l'Égypte et retrouvent à la fin de l'histoire la terre promise d'Israël. Dans ces cultures, peut-être plus que dans la nôtre, le retour au pays, c'est fondamental. Mais le choix de Ruth, il est plus radical que les us et coutumes. Elle veut être enterrée aux côtés de sa belle-mère. Autrement dit, Ruth assume une identité toute nouvelle. Pourquoi ça? Comment ça? C'est manifestement en rapport avec la personnalité de Noémie. Parce que déjà jusqu'ici, seulement au premier chapitre, nous avons avec Noémie, la belle-mère, l'impression d'une femme d'honneur, une femme droite, une femme de bien, une femme qui marche avec Dieu, une femme qui, même dans la pauvreté, pense aux autres. Ruth l'a connue lorsque tout allait bien. Puis, elle l'a vue faire face à la mort de ses deux fils. Ruth la voit maintenant qui s'apprête à rentrer en Juda, écrasée, triste, affligée, amère. Mais même là, même dans la détresse, Noémie avait quelque chose de spécial. L'honnêteté, par exemple. Parce que Noémie reconnaît que c'est difficile, verset 20. Elle le dit. Elle ne fait pas comme si tout allait bien. Elle dit que c'est dur. La générosité. Elle aurait pu retenir Orpa et Ruth. Elle aurait pu les garder pour elle. Mais elle les libère. Le courage. Noémie voit ce qu'il faut faire. Et elle le fait. Elle sait qu'elle ne peut pas rester là. Elle doit rentrer et elle se met en route. Du courage. Et puis la foi. Même chancelante, la foi quand même. Parce qu'elle voit la main de Dieu dans ses malheurs. Elle le dit. Et Ruth est attirée vers sa belle-mère. Et puis il y a encore un peu plus ici. Ruth choisit le Dieu de sa belle-mère. Ton Dieu sera mon Dieu. Et là, la Bible nous dit qu'elle prononce un serment solennel au nom du Seigneur. Ce n'était pas que des mots, hein. Voilà la foi, la vraie foi. Elle croit au Seigneur. Elle est prête à commencer quelque chose de neuf avec un Dieu unique. Elle veut marcher avec l'Éternel jusqu'à Bethléem et au besoin jusqu'à la fin de sa vie. Et je me pose la question. Si notre foi à nous est comme ça, un engagement total envers Dieu, donner à Dieu la priorité sur notre bonheur personnel, sur notre accomplissement, sur nos racines, sur nos rêves, nos espoirs, nos espérances, est-ce que Dieu a la priorité? Ton Dieu sera mon Dieu. C'est donc que Dieu est désirable, même dans le malheur. Et je sais qu'il n'existe aucune dépendance plus satisfaisante et libératrice que d'appartenir au Dieu unique. Devant les défis de la vie, est-ce que nous pouvons nous mettre à la place de Ruth et dire ce qu'elle a dit et faire le choix qu'elle a fait? Ton Dieu sera mon Dieu! Comment est-ce que Ruth en est arrivée là? J'en suis convaincu, c'est à cause ou grâce à Noémie, sa belle-mère. Une femme dont la vie entière était un message, un exemple d'honnêteté, de générosité, de courage, de foi. Une femme remarquable, une Eshet Shaïl, va dire la Bible, une femme de grande valeur. Une belle mère, au sens le plus noble du terme. Une mère dans la foi. Et si nous sommes chrétiens, si nous sommes chrétiennes, nous devrions être comme Noémie, pour nos proches, pour nos enfants, honnêtes, généreux, courageux, confiants. Parce que nos enfants, nos petits-enfants, nos proches, n'ont pas particulièrement besoin de nos belles paroles. Ils ont besoin de nous voir vivre et de voir une certaine cohérence se dégager de notre vie. Est-ce que nos enfants nous voient prier? Est-ce que nos enfants nous voient lire la Bible? Est-ce qu'ils nous voient à l'église même quand nous sommes fatigués ou abattus ou déçus? Est-ce qu'ils nous voient nous mettre en quatre pour accueillir quelqu'un, pour encourager, pour valoriser, pour dire « viens avec moi, on va la faire la route ensemble » Est-ce qu'ils nous voient, nos proches, nos enfants, nos petits-enfants, est-ce qu'ils nous voient lorsque les choses se gâtent, lorsque nous sommes inquiets, tendus, découragés? Autrement dit, est-ce que notre Dieu est désirable? Ou est-ce que Dieu est tellement séparé de la réalité de notre vie qu'il n'a rien à faire valoir dans les espaces qu'on partage avec nos proches et nos enfants? Dieu est-il désirable? Ruth, elle avait besoin que Noémie soit comme une passerelle vers Dieu, pas un pont-levis que l'on remonte afin de lancer les pierres sur les autres du haut de la muraille. Pas un bunker où l'on protège je ne sais quel principe, quelle valeur. Mais un pont ouvert sur Dieu, fiable, cohérent. Une vie qui marque. Quand nous pensons à la conversion de Ruth, nous devrions penser au rôle essentiel joué par Noémie, et au rôle que nous pouvons jouer, nous, dans la vie de celles et ceux qui, autour de nous, ont tellement besoin de Dieu. Parce que sans Dieu, ils sont cuits, cramés. Il y a zéro espoir. Sans Dieu, la vie est absurde. Sans Dieu, on va dans un mur. Je souligne une dernière chose dans ce chapitre. Quelque chose qu'on ne comprend que lorsqu'on lit les trois chapitres suivants et qu'on en revient ensuite au début. La providence de Dieu. Dans ce livre, l'action de Dieu est très discrète, c'est vrai, mais elle n'en est pas moins réelle. Alors qu'elles avançaient tristement sur le chemin de Bethléem, Ruth et Naomi ne pouvaient pas savoir toutes ces choses. Tout ce que Noémie trouvait à dire, c'est que la main de Dieu avait été contre elle. Mais nous verrons cet été que les apparences étaient trompeuses. Nous verrons ça dans la suite du récit, parce que la main de Dieu ne s'appesantit pas sur celles et ceux qui lui appartiennent. La main de Dieu, elle les repêche, elle les relève, elle les tient debout. Ça, c'est notre Dieu. Mais nous le verrons dans la suite du récit. Alors je conclue. Noémie nous montre comment être une passerelle qui conduit les gens à Dieu. En étant cohérent, droit, honnête, confiant. Ruth nous montre ce que c'est d'appartenir à Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu, moi je marche avec lui, c'est clair. Et Dieu, lui, nous montre qu'il est aux commandes. Même quand c'est dur, même quand c'est absurde, même quand tout est bloqué. Il tient entre ses mains les tenants et les aboutissants de notre vie. Et à la fin de notre histoire à nous, nous le verrons aussi clairement que ces deux femmes l'ont vu à la fin de leur histoire. Alors avec ces perspectives, moi je vous souhaite un super été à la découverte du livre de Ruth, de ce grand Dieu qui prend soin de nous et de ces hommes et ces femmes qui marchent avec lui. Amen. Nous vous invitons maintenant à célébrer un temps de scène. Nous avions envisagé de former un cercle, comme vous le faites d'habitude ici au temple. Nous sommes un peu nombreux, un peu trop nombreux pour le faire, donc nous allons rester à nos places, recevoir le pain, et puis entendre ensuite le passage de la coupe. Je nous rappelle simplement que nous procédons par intinction, nous ne buvons pas la coupe, mais nous plongeons le morceau de pain dans la coupe qui passera. Une est avec du jus de raisin et l'autre, celle qui a un ruban, avec du vin. C'est juste ?
Alors, non, c'est le contraire.
Oh mince ! Voilà.
Alors voilà, le ruban, c'est le jus de raisin et puis l'autre, ben, voilà, du vin.
Merci, alors, c'est moi qui ne sais pas lire. Hein. Toi, tu as bien écrit.
Moi, je ne sais pas.
Nous voici réunis en ton nom. Alors, c'est à toi.
Prions. Merci Seigneur, encore une fois, ta parole vient nourrir nos vies. Aide-nous à découvrir en nous la bonté inconditionnelle que tu nous racontes avec l'histoire de Ruth et Noémie. Aide-nous à t'écouter, même quand nous nous avons l'impression que tu es absent ou que personne ne mentionne ton nom.
Aide-nous à penser aussi aux autres, à tous les autres, même celles et ceux que nous n'aimons pas. Nous les remettons tous à ta bonté.
Nous te prions aussi pour chaque personne ici ce matin, pour chaque personne dans le monde qui aujourd'hui te chante et te prie, et aussi pour chaque personne qui ne pense pas à toi. Nous les remettons tous à ta bonté.
Et nous te prions pour tous les habitants de notre région, pour nos trois communautés, catholiques, évangéliques, protestantes. Merci de nous donner la joie de chercher à te rencontrer à travers tous les exemples de bonté qui sont comme une image de ta bonté.
Merci parce que tu entends notre prière.
Et nous nous levons pour chanter le chant 5204, « Notre Dieu règne encore ». Reprenons une fois. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Nous voici réunis en ton nom. Et tu viens au-devant de nous pour nous donner ta paix. Que ta paix accorde du repos à nos vies fatiguées et à nos esprits agités. Nous voici réunis en ton nom et tu nous envoies vers les autres au nom du Père. Que ta parole nous enracine et nous construise pour partager la bonne nouvelle de ta bonté inconditionnelle.
Nous voici réunis en ton nom et tu souffles sur nous ton esprit. Permets-nous de nous réjouir de tout ce qui nous rassemble devant toi, plutôt ce qui nous distingue ou nous sépare.
Nous voici réunis en ton nom et tu nous invites à ta table pour partager le pain et le vin. Ces signes de vie qui nous rappellent ta mort et ta résurrection. Amen. Nous pouvons nous tenir assis peut-être pour chanter le chant 33-26, Rédempteur adorable.
En effet, voici ce que j'ai reçu du Seigneur et ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il le fit de même pour la coupe après le repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions au moment de partager le pain et le vin. Rends-nous présents, ô Père très saint, à l'invisible présence de ton Fils Jésus. Il est la parole de vie. Que ton esprit souffle sur nous et nous te disons merci pour tous les dons, en particulier aujourd'hui, pour ta bonté inconditionnelle.
Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné pour nous. Par lui, nous formons un seul corps, l'Église.
Cette coupe de bénédiction est communion au sang du Christ donné à chacune et chacun de nous.
Nous allons recevoir le pain et puis ensuite la coupe va passer et nous procédons par un pain de sucre. Le corps de Christ. Le corps du Christ. Te disons merci Seigneur pour ta vie donnée, une vie donnée qui nous donne la vie. Nous reconnaissons volontiers que nous avons besoin de toi tous les jours de notre vie. Nous te prions que ce temps de communion où nous nous rappelons de toi nous tienne au ventre et au cœur pour la semaine qui vient. Merci pour ta grâce si abondante et ta bonté qui se renouvelle. Amen.
Et puis pendant le chant 62-79, notre dernier chant, nous ferons l'offrande.
Tenons-nous debout. Place.
Okay. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que, jour après jour, nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe d'amour et de notre consécration à ton service. On a quelques annonces. Est-ce que... Voilà, ils sont juste là. Voilà, les grillades. Tu veux parler de la grillade?
Ah, je vais parler de grillades, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'intéresse, les grillades. Le premier épisode des grillades estivales, c'est ce mercredi 3 juillet, dès 18h30, sur le terrain de l'église évangélique de Mérin. On est en extérieur, dans un joli pré, c'est vraiment un bon moment à vivre ensemble. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre à 18h30 ou dès 18h30, on mange aux alentours des 19h, hein, avec une salade, du pain, du fromage, venez avec ce que vous voulez, mais on peut faire des grillades, il y a un matériel piccolo bello, et c'est toujours un très bon moment ensemble. Nous vous invitons cordialement à vivre ces grillades mercredi 3 juillet dès 18h30. Et toujours pour l'église évangélique de Mérin Village, pour nos membres et amis, le programme de l'été est sorti. J'en ai quelques exemplaires ici à distribuer. Il y en a bien sûr à l'église au village, mais le programme estival complet est sorti de presse en fin de semaine. Nous rappeler aussi que le lundi 8 juillet, c'est dans une semaine, nous serons à Mérin-les-Bains avec un très chouette programme dès l'après-midi pour les enfants avec des grandes bulles de savon et puis un repas raclette le soir et la projection d'un film en fin de soirée. Ça, c'est lundi 8 juillet prochain.
Merci. Et juste pour vous rappeler, le culte du dimanche prochain, le 7 juillet, c'est à l'EM. Et puis la prédication avec Bernard Félix. Le 14, ça sera à nouveau ici chez nous. Et la prédication sera avec la pasteur Méline Vaud. Les flyers sont à la disposition sur le présentoir. Et puis un petit flyer, juste comme ça, si jamais, avec tout le programme. Et puis voilà, il y a aussi pour informer que les inscriptions pour le catéchisme sont ouvertes pour les enfants de 3 à 17 ans. Il faut prendre contact avec le secrétariat, notre secrétariat. Merci.
Je précise juste que Mélina, qui assurera la prédication dans 15 jours, n'est pas pasteur ou pas encore pasteur. Ah. C'est peut-être une prophétie, mais c'est vraiment une jeune femme de grande qualité. Et je vous invite aussi à participer à ce culte qui se tiendra ici. Et je vous invite à vous lever pour la bénédiction et l'envoi. Que le Seigneur Dieu vous encourage, vous soutienne, vous renouvelle et puis vous accompagne dans tout ce qu'il va faire cette nouvelle semaine. Qu'il soit pour chacun, pour chacune, un sujet de joie et l'occasion d'une paix renouvelée. Alors allez dans la paix, chers amis, chers frères et sœurs, et dans la joie pour cette journée et la semaine qui vient. Amen.
Juste pour un petit rappel chez nous, on reste assis pour le dernier morceau d'orgue. Merci.
Heureusement que t'es là.
Oh, ben petit... Merci à Annelise pour nous avoir accompagnés ce dimanche. Merci à Philippe et à vous tous. Merci. Nous avons un petit café, un thé, de l'eau. Si vous avez envie, on peut partager ce petit moment. Bon dimanche à tous. Merci.